Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Si ça va, tant mieux. Moi ça va pas. On va pas mentir, moi ça va pas. Je souffre atrocement. Et je pourrais ajouter, c'est tant pis pour moi. C'est tant pis pour moi parce que c'est ma faute. J'ai manqué de sagesse et d'humilité lorsqu'au moment où il fallait porter une charge lourde et que mon épouse m'a dit « Nicolas, je vais t'aider », j'ai fait l'homme. T'inquiète pas, je vais m'occuper de ça. Et quand j'ai essayé de soulever le carton n'a pas bougé, mais j'ai senti mes reins, ils ont bougé. Et ils ont bougé, ça fait très mal. Et comme je suis têtu, alors que j'ai senti les reins bouger, je vais lui dire au Laurie, j'ai besoin d'aide. Mais non, il dit, je peux. La fierté de l'homme. Alors j'ai soulevé quand même. Et je souffre. Tant pis pour moi. Désobéissance aujourd'hui. Alors je me suis rendu compte qu'en fait, je ne prie même pas pour la guérison, le Seigneur fera, mais je me distrais pour moi. Tant que ça me fait mal, je me souvenais qu'il faut être capable de faire preuve de sagesse et ne pas hésiter à laisser les personnes que le Seigneur met à notre côté nous aider. Arrêtons de faire l'homme. Bon, les femmes aussi, hein. Peut-être pas la femme, mais en tout cas, faisons preuve de sagesse. Bon, en tout cas, ça n'a rien à voir avec le message de ce matin. Puisque ce matin, je vais prendre avec vous un passage que nous connaissons en tout cas pour la plupart d'entre nous. Donc ce matin, ce sera peut-être un rappel pour certains d'entre nous. Peut-être un message pour nous encourager, pour raffermir peut-être notre foi. Peut-être pour certains, nous amener à faire un choix, le choix d'une vie. Les paroles que nous allons lire, ce sont des paroles de Jésus-Christ, donc qui datent de plus de 2000 ans. Et pourtant, encore ce matin, ce sont des paroles qui vont nous parler, qui nous parlent. Alors que nous sommes, je considère, encore au début de l'année 2024, on est qu'au février, je pense que ce sont des mots qui, même s'ils sont bien connus, j'espère en tout cas qu'ils vont vous faire autant de bien qu'ils ont pu me faire à moi-même. Je vous invite à prendre la parole de Dieu, votre Bible, et nous allons lire ce passage qui se trouve dans le livre de Jean. Nous allons lire le chapitre 10, les versets 1 à 11. Jean, chapitre 10, les versets 1 à 11. C'est Jésus qui parle et il dit ceci. Donc Jean chapitre 10, verset 1 à 11. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parle que les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent, et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Alors il reprit. Vraiment, je vous l'assure. Je suis la porte, par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. mais les brebis ne les ont pas écoutées. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. C'est cette parole qui éclaire nos sentiers, c'est cette parole qui nous apprend à te connaître. Notre désir, c'est de te connaître. Afin que notre vie soit une louange à tes yeux, afin que notre vie soit agréable à tes yeux, nous voulons faire ton plaisir. Alors, à travers ces paroles que nous connaissons déjà certes, nous savons que tu as encore des choses à nous apprendre, ou encore des choses à nous rappeler. Alors que nous puissions t'écouter avec une oreille attentive, afin que tu puisses nous toucher au plus profond de notre être, notre cœur, et que nous attelions à mettre en pratique tout ce que tu nous as appris encore ce matin. Béni sois-tu, Père. Amen. Alors, si ce passage est si connu parmi nous, c'est qu'en fait, ce passage il est quand même assez riche. Ce passage est quand même une assez bonne description du message même de l'Évangile. Cependant, de par sa richesse, je vais faire preuve d'humilité et de sagesse justement ce matin, en ne cherchant pas à développer tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce passage. En fait, ce matin, je vous invite juste à vous focaliser. Nous allons nous focaliser sur trois choses. Le berger tout d'abord, les brebis ensuite, et enfin comprendre ce qu'est la porte. Une porte. Alors, que les choses soient claires, je pense que vous êtes comme moi. L'image de brebis et de berger, ce n'est pas si parlante que ça. Moi, je ne maîtrise pas, je ne suis pas berger. Je ne suis pas éleveur. Donc, je ne vais pas dire que je suis extrêmement à l'aise. Je pense que vous êtes certains d'entre vous comme moi. Le seul vrai contact que j'ai avec les animaux, c'est juste mes deux chiens. Donc, on est loin du troupeau. Cependant, lorsque Jésus a parlé, cette image était parlante pour son auditoire. Ceux qui l'écoutaient connaissaient le sujet. Dans l'Ancien Testament, à maintes et maintes reprises, l'Ancien Testament parlait de bergers qui conduisaient son troupeau. Pour ce qui est de nous, c'est peut-être moins parlant. Peut-être que rares parmi nous, ceux qui élèvent des moutons, des cabris, je ne vise personne, peut-être que pour eux, ce sera peut-être plus facile, mais pour la plupart d'entre nous, ce sera difficile. Cependant, le Seigneur, il a fait les choses bien. Et dans ce passage, je pense qu'il y a des choses à en tirer parce qu'elles sont, en tout cas, plutôt claires. Je vous invite donc à travers ce passage, à étudier un petit peu ce qu'est le berger. Ah, voilà. Qui est ce berger, ce bon berger? Ce berger qui nous est décrit, Jésus lui-même, il est tout à fait légitime pour pouvoir se nommer berger. Pourquoi? Parce que premièrement, lui, il ne fait pas les choses cachées. Il entre par la porte. Jésus n'a pas besoin de chemin détourné. Il n'a pas besoin d'astuces. Il n'a pas besoin d'escalader un mur. Il n'a pas besoin de creuser un trou pour entrer. Il ne force pas les choses. N'est-ce pas comme cela qu'il a agi en chacun de nous qui l'avons accepté un jour? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas venu, il n'a pas dit qu'il est venu défoncer la porte de notre cœur. Il a juste frappé. C'était à nous d'ouvrir. Il a juste frappé. Il fait les choses avec douceur. Ses brebis, il les connaît. Encore aujourd'hui, il en fait de même. Il est légitime parce qu'il a été envoyé par Dieu. Il ne vient pas chercher n'importe qui, il vient juste chercher ses brebis, ceux qui lui appartiennent. Oui, Jésus possède toute la légitimité pour passer par la porte de la bergerie pour récupérer ses brebis. Deuxième chose, le berger, si ça avait fonctionné, connaît ses brebis. Lorsque Jésus parlait, du temps où Jésus parlait, là, il veut que les bergers soient amenés à rassembler leurs troupeaux dans une même bergerie. Vous imaginez la quantité de brebis que ça peut faire dans une bergerie. Alors, on peut se demander, mais comment il faisait pour se retrouver dans tous ces brebis qui étaient mélangés? Et pourtant, c'était si simple. Il les appelait par leur nom. Mais je me suis posé la question, vous imaginez le nom que ça a dû prendre pour donner le nom à chaque brebis? Déjà, nous, pour donner le nom à nos deux chiens, ça a pris du temps. Pour se mettre d'accord, il faut que le nom aille avec l'agneau du chien. Enfin. Alors imaginez pour des brebis. Et je me demande là aussi, pourquoi on prend le temps de donner des noms aux chiens? Quel que soit le nom, je ne pense pas qu'il viendra se plaindre, Nicolas, le nom que tu m'as donné, je ne sais pas trop. Alors, on peut donner n'importe quel nom. Et pourtant, on prend le nom parce que donner un nom à ces animaux qui nous sont chers, c'est parce qu'ils ont de la valeur à nos yeux. Entre eux et nous, se crée un lien affectif. Pour certains, c'est comme s'ils étaient membres de leur propre famille. En tout cas, il y a une relation particulière avec ces animaux. Le berger entretient telle relation avec ses brebis. Et êtes-vous de ceux qui ont la mémoire? Avez-vous de la mémoire? J'espère pas comme moi. Mais vous avez suffisamment de la mémoire pour retenir le nom de votre conjoint, de vos enfants. J'espère. On peut aller encore un petit peu, les membres de votre famille, vos collègues de travail, vos amis. Donc là, on peut compter 10, 20 personnes. Retenir le nom de 2-3 brebis, ça passe. Mais 20 brebis, 30 brebis, 40 brebis, ça devient costaud. En plus, les brebis, regardez les brebis, même les moutons, ils se ressemblent tous. Alors comment ils font? Ils se ressemblent tous. Pourtant, le berger connaît le nom de chacune de ses brebis. Il sait les reconnaître par leur physique, leur aspect, leur démarche, leur caractère. Il sait exactement le nom de chacune de ses brebis. Un troisième point pour ce berger. C'est lui qui conduit ses brebis. Il sait quand sortir ses brebis. Il sait où mener ses brebis. Il ne peut pas se contenter d'aller mener tous les jours au même endroit. À force de goûter au même endroit, il n'y aura plus d'herbe. Mais c'est prendre en compte la météo. S'il y a la pluie, s'il y a de la pluie, il y a de la boue par là, je ne vais pas passer par là. Il sait prendre en compte des informations. Ah, il y a tel voisin qui m'a dit qu'il a vu des loups traîner par ici, donc je vais passer de l'autre côté. C'est lui qui a toutes les informations nécessaires pour conduire son troupeau. Et constater sa position. Le berger est devant. Le berger n'entraîne aucune brebis à un endroit où il n'est pas passé avant. C'est lui qui a la tête. C'est lui qui fait face en premier à toutes les difficultés, à tous les obstacles, à tous les dangers. C'est le berger qui fait face. Un dernier point. Le berger, il donne sa vie pour ses brebis. Il est prêt, pardon, à prendre tous les risques pour chacune d'elles. C'est lui qui fait face au danger. Alors, comment je pose la question? Parce que c'est bien d'être berger, mais tout berger reste d'abord un homme. Et, soyons francs, on ne réagit pas de la même manière face au danger. Alors, je vous pose une question. Seriez-vous capable de vous lancer dans une maison en feu pour sauver le petit poisson rouge? Alors, vous savez, le petit poisson rouge, il peut griller. Voilà. Bon, alors, il est trop petit. Un chien, un chat, quelqu'un, non, toujours pas. Vous vous rendez compte? Et pourtant, le berger, et là je parle du bon berger, il donne sa vie pour chacune de ses brebis. Et c'est quelque chose qui n'est même pas encore à démontrer, il l'a déjà fait. il a donné sa vie pour chacune de ses brebis. Jésus se décrit donc comme ce bon berger qui donne sa vie, qui a donné sa vie. Mais qu'en est-il de ses brebis? On a beaucoup de choses à apprendre des brebis. Premièrement, comprenons que les brebis, elles appartiennent au berger. Une brebis seule, livrée à elle-même, est livrée à la mort. Elle ne peut pas survivre seule. Ce n'est pas possible. Et je pense que la brebis, elle est consciente quand même d'avoir un maître. Alors non, je ne suis pas capable de lire les pensées des brebis. Mais je pense que si elle savait parler, si on vous pose la question, c'est qui ton berger, elle serait capable de nous dire c'est qui son berger. Pour elle, il n'y a aucun doute. C'est ce monsieur qui m'a vu naître. C'est ce monsieur qui prend soin de moi tous les jours. C'est ce monsieur qui est toujours à mes côtés. La brebis à un maître, un berger. Deuxième point que je voulais vous faire remarquer, c'est que la brebis, elle connaît la voix du berger. Et elle l'écoute. Puisque c'est cette même voix qu'elle entend depuis sa naissance. Cette voix qu'elle a appris à reconnaître. C'est un apprentissage qui peut être très long. Je ne sais pas vraiment qui du chien ou bien de la brebis le plus intelligent. Mais quand je vois le temps que prend un chiot pour retenir son nom et retenir la voix du maître, je pense que pour la brebis, ça doit être à peu près la même chose. La brebis doit apprendre à connaître la voix de son berger. Tout cela prend du temps. Tout cela se fait au contact du berger. C'est parce qu'elle passe du temps auprès de son berger qu'elle apprend régulièrement, petit à petit, à connaître la voix de son berger. Elle s'habitue à cette voix. Et du coup, elle est capable de distinguer cette voix parmi les autres voix des autres bergers. Un troisième point, cette brebis a fait une confiance aveugle en son berger. Lorsque le berger les appelle, toutes les brebis se regroupent autour de ce berger. Alors qu'elles s'éparpillent un peu partout, elles n'hésitent pas. Dès qu'elles entendent le son de la voix du berger, elles se regroupent. Elles se rassemblent autour de lui, prêtes à sortir de l'enclos, prêtes à le suivre. Et c'est une chose qu'elle ne ferait jamais avec un autre berger. Même si celui-ci essayait d'imiter la voix du bon berger, elles sont capables de distinguer les voix. Et il y a un truc qui m'interpelle, c'est selon vous, quelle serait l'attitude d'une brebis qui est perdue? Moi, j'ai l'impression qu'une brebis qui est perdue, elle se met à crier, elle se met à bêler. En tout cas, elle crie. Et en même temps, je me dis, mais ça peut paraître idiot. Parce que si tu cries, les loups aussi vont t'entendre. Alors, crie ou pas crie? Faut crier ou pas crier? Pourquoi elle crie? C'est pas le loup qu'elle appelle. Elle appelle son berger. Parce qu'elle est convaincue que le berger va se rendre compte de son absence. Et elle sait parfaitement que le berger va venir la chercher. Donc oui, elle prend le risque. Mais elle sait que son berger l'aime. Et que son berger ne va pas la laisser. Je vais vous présenter au troisième point, la porte. Lorsqu'on lit notre passage ce matin, on est quand même loin de l'image d'un Dieu qui regarde les hommes depuis là-haut sans se soucier d'eux. Rendez-vous compte, l'homme imparfait que nous sommes, souillé par le péché, nous n'avons pas notre place aux côtés d'un Dieu parfait, trois fois saint. Notre péché est une barrière entre lui et nous. Il aurait pu se dire non. On va de déception en déception, ils sont irrécupérables, mais non. Et pourtant, il n'a pas dit ça. Ce péché qui nous séparait de lui, qui nous condamnait à une mort éternelle, Jésus a pris tout ce péché sur ses épaules. Et il est allé à la mort, à notre place. Lui, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. nous l'avons dit tout à l'heure, serions-nous capables de donner notre vie pour un poisson rouge, nos chiens, nos chats? Pourtant, le Dieu Tout-Puissant, son Fils, a donné sa vie pour sa créature. Pourquoi n'a-t-il pas pris la décision de tout changer? Il fait tout selon sa volonté. Il lui suffit de juste claquer les doigts, faire les hommes tous disparaître et tout recommencer. Il pouvait, mais non, parce qu'il nous aimait. Par amour, il a donné son Fils. Et Jésus-Christ devient cette porte, le seul moyen d'entrer dans la présence de notre Dieu. Et comprenons bien que cette porte, elle est loin d'être abîmée, loin d'être délabrée, loin d'être fissurée à cause de la mort. Parce que Jésus qui passait par la mort, nous savons aussi qu'il est ressuscité. Il a vaincu la mort, il est plus fort que la mort. Il est donc cette unique porte qui nous conduit à la bergerie, dans la présence de notre Dieu. Et dans cette image de porte, nous devons comprendre aussi que c'est notre protecteur. Il nous protège. Lorsqu'il se trouvait loin de la grande bergerie, n'ayant pas la possibilité de faire des allers-retours chaque jour, les bergers pouvaient trouver sur leur route des enclos, comme cet enclos destiné devant vous. Cet enclos était constitué juste de pierres, pour constituer des murs juste assez hauts pour empêcher les bêtes d'y entrer. Ces enclos n'avaient qu'une entrée. Et en ce temps-là, à cette entrée, c'est là que le berger se tenait. C'est là que le berger s'endormait. La seule entrée possible. La seule porte possible. Il savait que si un animal devait entrer, il devait passer par lui. C'est lui qui était la porte. Le protecteur qui protégeait ses brebis face aux dangers environnants. Posons-nous la question. Si Dieu est notre maître, si Dieu est notre berger, si Dieu se tient à la porte, qu'est-ce qui peut nous faire peur? C'est le Dieu Tout-Puissant qui se tient à la porte. Aucun homme, aucun animal, aucune autre chose pourrait forcer cette porte, car cette porte, c'est Jésus-Christ. Troisième point. Le message de l'Évangile est vraiment très loin de l'image qu'on peut avoir d'une religion qui prive, qui referme, qui entrave les libertés, qui nous empêche de faire ce qu'on veut. Avec Jésus, il le dit lui-même, nous sommes libres d'aller et de venir. Par contre, est-ce que là, c'est une invitation à faire tout ce qu'on veut sans notre berger? Non, loin de là. Je le répète, la brebis ne fait pas un pas sans son berger. Mais nous avons la possibilité de passer la porte quand nous le voulons. Nous pouvons entrer en communion avec notre Dieu en passant par la porte de Jésus-Christ. Quand nous voulons, cette porte n'est jamais verrouillée. Cette porte est toujours accessible. On peut entrer et sortir comme nous le souhaitons. Alors, à travers ce passage, qui pourtant est bien connu, je pense que le Seigneur veut nous instruire, nous rappeler ce qui doit être le fondement de notre foi. Ces brebis ont au moins l'intelligence de savoir, si je peux le dire ainsi, qu'elles dépendent de leur berger. Beaucoup d'hommes se rassurent en pensant qu'ils sont maîtres de leur propre vie. La brebis, elle sait qu'elle dépend de son berger. Alors que l'homme, qui est pourtant plus intelligent que la brebis, cherche à se convaincre qu'il est au contrôle. Il ne s'en rend même pas compte, en fait, il ne contrôle absolument rien. L'homme se laisse conduire forcément par quelque chose. L'argent, le travail, la médecine, la science, la drogue, l'alcool, bien des choses. Nous qui faisons partie de troupeau, nous savons regarder à notre berger. Les autres préfèrent fermer les yeux. Merci Seigneur de nous avoir ouvert les yeux. Et nous qui faisons partie de ce troupeau, nous savons que Jésus nous a promis la vie éternelle. Et prenons conscience qu'il ne promet pas quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est lui seul qui a été capable de vaincre la mort. Il est donc bel et bien en mesure de promettre la vie éternelle. Parce qu'il sait ce que c'est que passer par la mort. Et il sait vaincre la mort. Il est la vie. Comme tout berger qui marche devant ses brebis, il est passé par la mort. Il a vaincu cette mort. Il est devenu le chemin et la vie. Il est ce berger, effectivement, qui aime ses brebis. Il connaît le nom de chacune d'entre elles. Soyez convaincus d'une chose. Rappelez-vous d'une chose durant cette année 2024. Rien ni personne ne peut vous ravir des mains de votre Dieu. N'écoutez pas cette voix dans votre tête. N'écoutez pas la voix du monde, de l'ennemi Satan. Cette voix qui vous dit, mais non, tu n'es pas assez bien. Mais non, tu penses être du troupeau, mais non, on voit comment tu es. C'est faux. Au verset 9, Jésus nous a dit, « Celui qui entre par moi sera sauvé. » En allant plus loin, si vous allez chercher au verset 28 et 29, il nous a dit ceci, « Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. » Et Dieu dans tout ça. Pourrait-il lui-même rejeter une brebis? Je ne pense pas. Voyez-vous, Lana, c'est ma fille. Combien même elle pourrait faire des petites bêtises, désobéir, elle reste ma fille. Et même s'il est vrai qu'il arrive que malheureusement des parents viennent à rejeter leurs enfants, notre Dieu ne nous rejettera jamais. Il est ce Père aimant. Et d'ailleurs, s'il venait à rejeter l'un de ses enfants, ce serait en fait se renier lui-même. Ce serait admettre que dans certains cas, le sang de Jésus-Christ n'est pas assez puissant pour laver les péchés de quelqu'un. Est-ce possible? Non. Par Jésus, nous avons tous droit au salut. Par sa grâce, il nous l'a promis. Mais retenons que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que nous obtenions le pardon de nos péchés, ça s'arrête là. Non, au contraire. C'est à partir de là que tout commence. Accepter Christ comme berger, c'est être prêt à se comporter comme une brebis. Alors oui, je sais, c'est vrai, nous avons encore du mal avec cette image de la brebis. On parle de brebis, on pense à mouton. On pense à mouton, on pense à couillon. Non. Oui, c'est vite fait. Mais restons focalisés sur la brebis et sur les moutons tranquilles. Et apprenons quelques leçons de ces brebis. Pour terminer, retenons que la brebis n'a qu'un berger. Jésus ne s'impose pas. Il n'est pas un berger qui force les brebis à le suivre. Il les appelle, elles le suivent. Il y a un choix à faire. Je suis ou je ne suis pas. La brebis apprend à connaître la voix de son berger. Dès que nous l'avons accepté, une relation se crée et cette relation doit se développer jour après jour. La brebis apprend à connaître la voix du bon berger à son contact. Nous devons passer du temps dans la présence de notre berger. La brebis suit son berger. Elle accepte de le laisser partir devant. C'est Dieu qui est devant. C'est Jésus qui est devant. Dans chacun de nos pas, chacune de nos démarches, c'est Jésus qui est devant. La brebis est humble. Elle sait qu'elle n'est rien sans son berger. Elle ne compte pas sur ses forces. Elle s'appuie sur son berger. Cinquième leçon. Pas toujours. La brebis ne craint pas le danger. Vous connaissez ce verset. Quand je marche, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, verset 4. La brebis est rassasiée de nourriture. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Quelques précisions sur ce point. La brebis se trouve dans la bergerie. Le berger la fait sortir. Le berger la fait revenir. La brebis, en fait, peut se nourrir tant à l'intérieur de la bergerie qu'à l'extérieur. Quand je parle de l'intérieur de la bergerie, c'est à la maison. C'est au temple. C'est dans le temps que je passe avec mon Dieu, tranquillement avec lui. Quand je parle de l'extérieur, c'est aussi à travers notre vie professionnelle, nos loisirs. Toutes ces occasions sont des occasions pour nous d'être nourris. Il suffit juste que nous soyons capables d'entendre notre Dieu nous parler par son Saint-Esprit. Un deuxième point, quand la brebis mange, elle rumine sa nourriture. Se nourrir, c'est être capable de prendre le temps pour méditer la parole de notre Dieu. Les brebis, soyons convaincus de cela, vivent en troupeau. Certains sont convaincus qu'ils vont progresser mieux en étant seuls. Aucune église ne semble leur convenir. Ce n'est pas possible. Un chrétien isolé est un chrétien fragilisé. Un chrétien en danger. La brebis, elle, recherche la présence de son berger. Cette présence la rassure. Parce que le berger aime ses brebis, prend soin d'elles, les nourrit, les protège. Psaume 23, toujours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La brebis cherche la présence de son berger. Et enfin, les brebis sont capables de prendre soin les unes des autres. Dans un grand troupeau, les brebis de l'arrière, elles ne voient pas le berger. Elles suivent simplement la brebis qui est devant elles. Elles savent que de toute façon, toutes les brebis n'ont qu'un objectif, suivre le berger, suivre le maître. De plus, les brebis sont invitées à s'occuper des plus petits, ces plus petits qui ne connaissent pas encore la voie du berger. Enfin, même éloigné du berger qui est à l'avant, la connaissance qu'a la brebis de son berger fait qu'elle est capable de discerner s'il y a un comportement de l'animal qui n'est pas normal. Elle est capable de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si elle est au loin, parce qu'elle connaît les habitudes de son berger. Frères et sœurs, à travers ce passage, le Seigneur nous invite à nous rappeler de ce qu'il est et ce que nous sommes. Il est ce berger qui a ce désir de nous conduire, chacun d'entre nous. Ce berger qui a ce désir de prendre soin de nous. Ce berger qui sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Mais il nous laisse cette liberté. Il ne force personne. Il nous appelle. Nous sommes libres de répondre à cet appel. Pour nous laisser conduire par lui. Pour lui laisser la place. La première place. Le laisser partir devant. À travers ce passage, je pense que le Seigneur veut nous parler pour que nous puissions donc, nous rappeler certaines choses qui sont quand même la base de notre foi. Afin que cette année 2024 puisse se passer avec cette conviction que nous faisons partie du troupeau. Lorsqu'il nous a appelés, lorsque nous avons répondu oui, nous avons fait partie, nous avons été accueillis au sein de ce troupeau. Et rien ne pourra nous enlever de ce troupeau. Je vais vous inviter à vous lever pour que nous puissions prier. Je vais demander aux musiciens de se préparer. Nous allons chanter un chant. Je vais inviter le groupe de louanges à venir me soutenir. Nous ne chantons pas juste de belles mélodies. Nous chantons des choses qui sont censées être des vérités dans notre vie. Je ne vous invite surtout pas à chanter quelque chose qui ne serait pas une vérité. Les paroles s'affichent et donc vous savez
Si ce qui est écrit, vous le ressentez. Si c'est le cas, vous pouvez chanter avec nous. Si ce n'est pas le cas, réfléchissez à ça. L'Éternel est mon berger. De rien, je ne manquerai. Pas à pas, il me conduit. Au bord des eaux calmes, je le suis. Oui, toujours. Tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Dans sa présence, je trouve la joie. Ô mon âme, tu ne craindras absolument rien. Et dans son temple, je reviendrai. Je reviendrai.